Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dimaoni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Comment réussir un référendum apaisé sur le thème du Grand Dialogue de ce soir? Les Maliens sont appelés à répondre par oui ou non au projet de constitution par référendum. Le 18 juin prochain, cette nouvelle date a été annoncée par les autorités de la transition après un deuxième report. Le projet de constitution est contesté par des associations musulmanes alors que des regroupements politiques demandent d'abandonner l'initiative de changer la constitution. Alors comment concilier les positions? Comment réussir un référendum inscrit un référendum apaisé? Où en sommes-nous avec les préparatifs du référendum? Cette nouvelle date sera-t-elle maintenue? Le Grand Dialogue de Studio Tamani réfléchit sur ces questions. Nos invités, Dr Ibrahima Sango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Issa Kaodjim, de porte-parole de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile, CARSO. L'autorité indépendante de gestion des élections a décliné notre invitation, affirmant qu'elle ne pourrait être partout. Une déclaration du président Maître Moustapha Cissé à la présentation. Je suis Imran Akil Omega, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Issa Kaodjim, quelle appréciation faites-vous de l'annonce du 18 juin pour le référendum constitutionnel?
Merci. Permettez-moi tout d'abord de saluer vos téléspectateurs et vos auditeurs et saluer tous les Maliens résidant au Mali et à l'extérieur. Et c'est vrai, vous l'avez dit, l'appel du 20 février, c'est l'organisation qui regroupe des entités politiques, certains composants de la société civile, des magistrats, des personnalités indépendantes, mais aussi qui partagent une démarche commune et qui n'est autre que le respect de la Constitution en vigueur et le respect des engagements pris par les autorités de la transition de faire des élections pour que nous puissions retourner à l'ordre constitutionnel. Et malheureusement, beaucoup de nos concitoyens, ne maîtrisant pas la langue de Molière, n'ont pas souvent la maîtrise des aspects techniques, on a l'impression qu'on s'oppose à quelque chose qui a été demandé par le peuple. Donc je pense que le débat, on va en venir, mais notre raison d'être, c'est tout simplement la constitution qui est en vigueur et la charte, et que sur cette constitution et charte que le président de transition a juré devant le peuple malien de respecter la constitution et la charte. Et cette constitution dit très clairement dans ses articles que je vais laisser peut-être Sango en développer, mais c'est très clair parce que cette constitution en vigueur dit que pour des réformes ou changements de constitution, c'est des prérogatives du président de la République. Qui parle du président de la République? Parle d'un président qui a été élu dans les urnes. Qui parle de l'Assemblée nationale? C'est les députés qui ont été élus par le peuple malien. Donc ce sont ces deux institutions qui ont cette possibilité, cette légitimité devant cette constitution. Et malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est vraiment, comme Obama l'a dit, au lieu qu'on ait le souci des institutions fortes, on est en train vraiment de retourner à la culture des hommes forts. Donc pour nous, référendum, dans le fond et dans la forme, c'est illégal, ça viole la Constitution et ça ne résout pas le problème de l'insécurité, ça ne résout pas le problème de vie chère, ça ne résout pas le problème de vivre ensemble, ça ne résout pas le problème d'accord d'Alger. En somme, ça ne fera qu'exacerber la crise qui existe déjà parce que la classe politique est divisée, la société civile est divisée, les religieux sont divisés. Alors sans compter que Dieu nous en garde, qu'il y ait d'autres vraiment crises qui n'est pas de nature à rassurer le peuple malien. Donc pour nous, vraiment, c'est un faux débat, mais c'est seulement une volonté des militaires qui confisquent le pouvoir à travers cette tentative que j'appelle de coup d'État démocratique au peuple malien.
Donc vous êtes en train de mettre en doute la légitimité des autorités initiatrices de ce référendum.
Mais je suis quand même membre fondateur du M5-RFP, je suis membre fondateur du Troïka, j'ai été 4e vice-président du CNT, je sais de quoi je parle.
D'accord. Alors, Adama, pour Issa Kaodjim, ce référendum n'a pas droit d'être lieu. Alors, quelle appréciation faites-vous de cette date annoncée pour le référendum constitutionnel?
Merci. Je me joins à lui, évidemment, pour vous remercier d'abord pour votre invitation.
Merci.
Et également, nos auditeurs, les saluer, n'est-ce pas, pour leur présence à notre écoute. Moi, ma démarche, je suis pour la relecture des sept lois fondamentales. Je suis pour à ce qu'on puisse réviser
cette constitution-là. Pour la simple raison que mon débat ne commence pas aujourd'hui. Mon combat et mon débat, je l'ai commencé depuis les premières heures de l'élection d'Avamoel Kounare à la Cour suprême. Car je vais vous dire, cette constitution 92 dont on parle, je suis le père de cette constitution. C'est moi qui l'ai rédigée avec Maître Dama Traoré, Malamine Traoré, avant qu'on aille à l'Assemblée nationale pour la préparation des consultations nationales. Je suis le père de la constitution 92. Et je sais ce qu'on a mis là-dedans. Évidemment, sur la demande de Maître Dama, nous avons pris la constitution 58. Ils ont plagié. Ils ont travaillé cette constitution-là. Pour moi, c'était un devoir. C'est presque ma conscience qui m'appelle. La constitution 92 est une constitution d'intellectuels. Nous avons pris des articles qui nous arrangent là-dedans. C'est ça qu'on a amené à l'Assemblée nationale, où était la conférence préparatoire et la conférence nationale. Je faisais partie de la commission constitution, dirigée par Manassa Dayo, avec un rapporteur Wafi. J'étais le vice-président, quand j'étais là-dedans pour défendre mon texte. En résumé, quand nous avons fini de travailler sur cette constitution, j'ai exigé de la présidente pour la restitution au niveau de la conférence nationale, que la relecture soit immédiate dès l'élection du nouveau président, après la transition. Ça a été mon combat. Donc, après l'élection de la femme Kounare, j'ai laissé passer 2 ans, mais 94-95, j'ai déjà abordé Alpha pour immédiatement préparer le référendum constitutionnel. Il faut relire. Alors maintenant, on me dit, oui, je ne suis pas dans ce schéma des jeunes qui sont là, ils dissous. Non. C'est une transition qui a fait cette constitution-là. L'Assemblée était dissoute. Il n'y a pas de député. Ça, moi, c'est clair. Nous avons adopté cette constitution en salle. Il n'y a pas de référendum. Mais c'est bien. Une transition qui a préparé cette constitution-là. Le peuple dans son immensité n'a pas été consulté. Il le dit haut et fort. Car il suit l'élément clé de cette constitution. Et je sais de quoi je parle là. Donc mon combat aujourd'hui, je ne suis pas en train je me suis battu pour ça. En résumé, Alpha Konaré, il m'a dit, ces premières 5 années-là, Adam, je ne peux pas. Tu as tout vu. Tu fais partie de l'opposition. Je vous ai appelé dans mon gouvernement. Vous avez tous quitté. La gestion, c'est Adéma, la gestion Adéma. C'est 5 premières années. Ce n'est pas facile pour moi. Mais je vais prétendre à un second mandat. La loi me le permet. Si je suis réélu, en ce moment, je mettrai tout en œuvre pour qu'on puisse réélire suivant ce qui a été décidé à la Conférence nationale.
D'accord. Donc vous êtes en train de dire que même si vous êtes pour la relecture de cette constitution, vous êtes en train de dire que si cette constitution est validée par le peuple malien, doit être révisée par le président qui sera élu démocratiquement.
Oui. Non, je vais dire simplement, aujourd'hui on est en train de les mettre en cause parce qu'on dit que ceux qui sont là, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas des députés. Il dit mais nous on l'a fait, nous on n'était pas des députés là. Nous, on a fait la Constitution 90, il n'y avait pas de député.
L'Assemblée était dissoute. Vous avez dit, après cela, vous avez demandé au président...
J'ai demandé au président, maintenant, de faire un référendum.
De faire un référendum pour relire les textes.
Pour un référendum, maintenant, pour relire cette Constitution 92.
Qui pose problème. Depuis, vous le savez.
Je l'ai conçu. Il faut être honnête avec moi et voir avec le peuple. Ce que je veux dire, simplement, Alpha a eu des difficultés. Parce qu'en 97, donc il était réélu. Quand il a voulu mettre en pratique maintenant pour le référendum, je sais ce qui s'est passé. Ibrahim Boubacar qui était premier ministre, président, n'est-ce pas, président pratiquement de l'ADEMA, c'est-à-dire un produit, n'est-ce pas, d'Alpha. Ibrahim avait pensé qu'Alpha était là, maintenant il voulait tripatouiller maintenant pour se maintenir.
D'accord. Mais pour vous, est-ce que cette nouvelle constitution va être acceptée par le peuple malien le 18 juin prochain ?
Moi, je suis dans mon débat. Accepté, pas accepté, j'ai dit simplement, c'est que le produit que j'ai donné à la nation malienne, on l'a fait en intellectuel. On ne les a pas consultés. On a adopté une constitution dans une salle au CCB.
Oui, je parle de cette nouvelle constitution.
Maintenant, la nouvelle constitution actuelle,
oui.
C'est un débat. Il y a eu les assises nationales, ici au Mali. Tous ceux qui sont là, même Jim était membre, n'est-ce pas, il a assisté aux assises. C'était une formulation au niveau des assises. Et ensemble, vous avez accepté aux assises nationales. C'est le terme de l'assise qu'ils ont dit. Donc, on est en train, c'était marche arrière. Moi, je suis dans mon élément. J'ai demandé depuis plus d'une dizaine d'années de relire cette constitution.
D'accord.
Mon débat, c'est à ce niveau. Et cette constitution doit être relue.
D'accord. Cette constitution doit être relue. Docteur, est-ce que sommes-nous prêts ou nous serons prêts avant le 18 juin ?
Bon, merci beaucoup. Je salue les auditeurs, les téléspectateurs. Est-ce que nous serons prêts pour le 18 ? C'est une question. C'est une question importante et cruciale. Parce que si on se réfère d'abord, je voudrais faire un petit rappel par rapport à la Constitution de 92. La Constitution de 92, actuellement, elle a été violée par tout le monde. Elle a été violée par les partis politiques, elle a été violée par l'armée. Parce que si on voit les dispositions de la Constitution de 92, le mandat des députés, par exemple, c'est de 5 ans. En 2018, le mandat des députés a été prolongé de 6 mois, de 9 mois une première fois après, de 6 mois une première fois après, de 9 mois une deuxième fois. Ça, c'est une violation de la Constitution que les partis politiques de l'époque, majorité opposition, ont opéré. Quand on voit le Haut Conseil des collectivités territoriales, le mandat est de 5 ans dans la Constitution. Mais depuis 2012, ils sont là sans renouvellement de mandat. Donc la Constitution a été violée. Quand on voit le coup d'État qui a fait que le 18 août 2020 contre ATT, contre IBK, pardon, c'est une violation de la Constitution. Et les autorités actuelles sont dans la violation de la Constitution de 92. Maintenant, est-ce qu'il faudrait faire une nouvelle Constitution ? Aujourd'hui, ils disent une nouvelle Constitution. Parce que si on prend les dispositions de la Constitution de 92, on ne peut pas relire la Constitution sans président légitimement élu, sans député à l'Assemblée nationale. Maintenant, les autorités d'attention disent qu'on veut une nouvelle Constitution. Mais quand on voit le texte même, ce n'est qu'une relecture de la Constitution de 92, avec des améliorations. Pour nous, il y a beaucoup d'améliorations dans le projet de Constitution. Il y en a beaucoup. Et est-ce qu'on peut tenir le 18 juin ? Ça pose des problèmes. Parce qu'à un mois du référendum, parce qu'aujourd'hui, le référendum va se dérouler en deux étapes. Le 11 juin, les forces armées de sécurité vont voter. Après le 18 juin, les civils vont voter. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un fichier d'état civil pour les militaires et un fichier d'état civil pour les civils ? À ce moment où je vous parle, personne n'a connaissance de ça. Donc, on ne sait pas.
Donc, vous, en tant qu'observateur, vous n'avez pas connaissance de ça. Nous sommes aujourd'hui le 8.
On est le 8. Est-ce que dans le, 18, le 11 juin, il y aura un fichier d'état civil uniquement pour les civils, pour que les civils puissent voter le 11 juin. Et le 18 juin, un fichier d'état civil, électoral. Je parle de fichier électoral. Le fichier électoral pour les militaires, fichier électoral pour les civils, ça n'existe pas. Parce que si on voit, jusqu'à de 92 à aujourd'hui, c'est le fichier électoral qui comprend et les militaires et les civils. Donc il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les militaires, fichier électoral distinct pour les civils. Ça, c'est un premier défi. Le deuxième défi, c'est la carte nationale d'identité biométrique. Aujourd'hui, la loi a été modifiée en mars, la loi de 2022, de juin 2022, qui n'a même pas servi d'élection d'abord, a été modifié le 13 mars 2023 pour dire désormais c'est la carte nationale d'identité biométrique. Donc désormais dans le bureau de vote, il n'y aura plus de carte d'électeur. Les cartes d'électeur ne seront plus dans le bureau de vote. Les cartes d'électeur ont été supprimées. Or si on voit la production des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées, sur 20 millions de Maliens, on n'a pas d'abord 2 millions de cartes produites et distribuées. C'est à Bamako seulement qu'il y a la distribution, sinon dans les régions, il n'y a aucune distribution. Donc à un mois du référendum, il n'y a pas de carte nationale d'identité biométrique pour les Maliens. Encore moins pour les 8 millions d'électeurs qui doivent aller voter. Donc ça, c'est un défi. Le troisième défi, c'est l'EGE, l'autorité indépendante de gestion des élections.
Tout à fait. Alors, selon vous, quel va être le rôle de l'EGE dans l'organisation de ce scrutin?
Les rôles sont précisés dans la loi électorale. L'article 4 de la loi électorale dit que c'est l'EGE qui est en charge de la gestion des élections en République du Mali. Donc, c'est l'EGE qui doit donner un calendrier électoral. C'est l'EGE qui doit organiser les élections, que ce soit le référendum et puis les autres élections. Les membres des bureaux de vote, c'est l'EGE. Les résultats des bureaux de vote, c'est l'EGE. La proclamation des résultats provisoires, c'est l'EGE. Donc, l'EGE a un grand rôle. Mais à côté, il y a le ministère de l'administration territoriale qui s'occupe de toute la logistique afférente aux élections. Donc, aujourd'hui, l'EGE n'est pas installé sur l'ensemble du territoire national. Même à Bamako, l'EGE n'est pas installé. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Le président de l'EGE a demandé au ministère de l'administration territoriale de procéder à la désignation des membres au niveau des régions, des sectes, des communes, des ambassades et consulats. Et après, les membres de l'EGE vont passer pour formaliser. Et à un mois du référendum, l'EGE n'a pas encore formalisé l'installation de ces démembrements au niveau des régions, des communes, des cercles. Et cela aussi pose problème. Parce que c'est l'EGE qui doit organiser les élections. C'est l'EGE qui doit constituer les bureaux de vote. C'est l'EGE qui doit proclamer les résultats. C'est l'EGE qui doit compter les voix. Les opérations de vote, c'est l'EGE. Donc ça aussi, c'est un troisième défi par rapport à la date du 18 juin 2023.
D'accord. Est-ce que l'EGE a-t-elle été consultée par les autorités de la transition avant de fixer la date du 18 juin?
Si on se réfère à la loi électorale, l'EGE n'a pas besoin d'être consultée. C'est l'article 148 de la loi électorale qui dit comment le référendum est convoqué. Et c'est un décret pris en Conseil des ministres au moins un mois avant la date du référendum qui convoque le référendum. Et c'est ça. Donc l'EGE n'a aucun rôle à jouer. Maintenant, l'EGE doit se tenir prête pour organiser concrètement les élections sur le terrain. Et pour ça, aujourd'hui, l'EGE n'est pas prête, à notre avis.
Issa Kaoudjim, votre organisation envisage d'aller en justice contre le référendum pour l'annulation, pour demander l'annulation du référendum. Pourquoi? Pour quelles raisons?
Ben avant de répondre, je crois que je vais juste rebondir à une partie de propos de l'honorable doyen. Ce qu'il a dit, effectivement, il n'est pas doyen pour rien. Mais sauf que j'aimerais attirer son attention qu'en 92 qu'il fait allusion, c'est que les écrits existent, même si à l'époque on n'était pas dirigeant à l'époque, on était manifestant. Et d'abord, quand les militaires amenés par Amadou Toumani Touré ont arrêté Moussa Traoré avec les Buris et Anatole et autres, ils ont fait ce qu'on appelle le correspondant aujourd'hui, qu'on appelle CTSP, qui a géré un peu la transition. Mais avant même ça, ils ont dissous les militaires de l'époque, ont dissous les institutions et ont suspendu la Constitution. Donc, il y a eu ce qu'on appelle la loi fondamentale qui a géré la transition. Ça, quand même, il faut le dire. Donc, c'est différent de cette transition, parce que cette transition n'a pas remis en cause la Constitution de 92. Mieux, le porte-parole du CNSP, l'actuel cinq colonels qui sont aux affaires, ont eu à dire qu'ils respectent tous les engagements du peuple malien devant la communauté internationale. Et donc, y compris l'accord d'Alger. C'est pour dire que c'est une question de fond, parce qu'ils n'ont pas respecté la parole donnée, c'est ça la vérité, Sango a eu à dire. Maintenant, est-ce qu'on va continuer à violer la Constitution? Parce que si on va dans ce cas de figure, avant de répondre à votre question, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont en train de violer la Constitution pour faire ce qu'ils veulent, que Dieu nous en garde, le jour qu'ils ne sont pas là, d'autres aussi vont venir violer la même chose. Et donc, on va retourner et dire que bon, eux-mêmes, ils ont violé. C'est ça le problème de faire une loi qui n'est pas dans une logique impersonnelle. On fait une loi pour des générations, voire même des siècles. Les ajustements, les réformes peuvent se faire. Mais quand on fait des lois, à fortiori une constitution, à l'image des hommes forts du moment, je pense que c'est très grave pour la démocratie. On fait un choix qu'on n'est plus dans la démocratie. Et ce qu'on veut faire, qu'on dit ça clairement au peuple. Donc c'est ce que je voulais dire avant de répondre à votre question. Vous dites que pourquoi nous,
vous voulez saisir la justice. La justice.
Oui, mais parce que on ne peut pas. Nous, d'abord, notre regroupement n'est pas un regroupement politique. Si c'était politique, on va dire, bon, c'est un moyen politique de les affaiblir. Non. Nous avons des revendications politiques, mais nous ne sommes pas un regroupement politique dans le sens de s'opposer à la tradition.
Mais il y a des partis politiques, par
exemple. Mais bien sûr, je l'ai dit dans mon introduction. Il y a des partis politiques, il y a une partie de société civile, il y a des magistrats, il y a d'autres personnalités indépendantes. Mais notre revendication, c'est sur deux points. De respecter la Constitution en vigueur parce que cette démarche viole la procédure devant elle. Deux, de faire en sorte qu'il y ait des élections. Et donc, si on fait des élections et qu'on renonce à la Constitution, maintenant, tout le monde peut faire campagne. Si je suis élu, je fais une nouvelle Constitution. En ce moment, si le peuple est d'accord, va voter pour ce candidat. Mais aujourd'hui, cette Constitution qui est imposée, quelle garantie avons-nous que le président, parce que même cette question n'est pas tranchée, est-ce que le président est transition, parce que la manière dont nous voyons les choses, c'est comme s'il crée cette constitution pour que lui puisse être candidat, et quelle crise encore ça va engendrer, je ne le souhaite pas, il n'a pas dit, mais nous voyons un peu les prémices. Et si même tel le cas que les élections soient civiles, mais le président qui est venu n'est pas tenu à respecter cette constitution, elle peut remettre ça en cause. Donc du coup, on n'est pas sorti de l'affaire. Ce qui est bon, c'est de laisser l'initiative au président élu. Maintenant, cette constitution qu'on propose, disant qu'il y a des avancées, mais ça fait du président plus qu'un monarque.
Alors mais à quel titre votre organisation décide de saisir la justice pour annulation du référendum ?
Je vais en venir, parce que cette organisation ne peut que agir légalement. Si vous dénoncez l'illégalité, vous ne pouvez pas agir dans l'illégalité. Parce que nous allons saisir ce décret-là devant des juridictions administratives, au-delà, même s'il faut aller au-delà. Ça aussi, c'est une procédure de droit, de dire que voilà, ils ont violé. Et nous prenons l'opinion à témoin, national et international. Maintenant, nous savons très bien comment ça se passe, mais cela est une procédure légale de dire qu'on n'est pas d'accord et que ce décret-là, on l'attaque devant la justice. Non, oui, les magistrats ont attaqué ici un décret. Les magistrats eux-mêmes, qui sont les techniciens du droit. Mais on a vu le résultat, on a outrepassé pour aller. Donc, mais c'est juste qu'il faut réunir suffisamment de preuves pour montrer la vraie nature de cette transition. Donc, et au-delà de ça, nous allons aussi mener d'autres actions citoyennes et pour montrer à l'opinion nationale et internationale que ce n'est pas la voie de sortie des crises. Donc, nous sommes dans notre rôle, l'appel du 20 février, pour aller à ce combat démocratique et républicain tout en restant pacifique et en les amenant devant les juridictions compétentes à la matière pour dire que ce décret qui convoque ce référendum est illégal.
Vous faites ça au nom de qui? Au nom du peuple? Au nom de ou bien au nom de votre
ils
organisation?
Ils ne font pas au nom du peuple, ils ne sont pas élus, ils font au nom des armes qu'ils ont.
Avez-vous la légitimité d'aller saisir votre organisation a-t-elle la légitimité d'aller saisir?
Si tout citoyen peut aller devant la cour administrative, parce que n'oubliez pas quand même que nous avons des magistrats chevronnés à notre sein. Cette question ne se pose pas, ce n'est pas seulement des...
Mais avez-vous consulté le peuple?
Non, est-ce qu'ils ont consulté le peuple? Parce que le peuple, c'est les urnes. Et là, quand ils sont venus, ils ont dit qu'ils ont parachevé la lutte. Cette lutte-là, j'étais membre fondateur. Mais une lutte parachevée ne parlait pas d'une nouvelle constitution. Les écrits existent. Maintenant, on nous a amenés dans d'autres logiques aujourd'hui. C'est ça la vérité. Parce que ce qui était, pouvait être que je pouvais être d'accord, il fallait trouver cette période de transition, proposer des réformes constitutionnelles qui n'allaient pas remettre en cause la Constitution. On peut faire beaucoup de réformes dans une Constitution. Même quand vous regardez les préambules de cette nouvelle Constitution, beaucoup de dispositions en réalité sont retirées de l'ancienne Constitution. Sauf que on fait le président plus que monarque.
D'accord.
Selon alors vous, que l'autre constitution était semi-présidentielle.
Selon vous, ce projet de constitution déjà acté par le peuple malien a-t-il…
Lequel est acté par le peuple malien? Vous parlez de 92 ou bien…
Non, actuel.
Ah, qui l'a acté?
Ce projet qui par le peuple malien.
Non, comment vous pouvez vous dire peuple malien? Vous fondez sur quoi pour dire peuple malien?
Est-ce que ce projet…
Non, je veux que vous rectifiez d'abord votre formulation.
D'accord. Est-ce que, selon vous, ce projet a a-t-il la chance de passer au assuré ?
Elle est déjà un projet mort-né. Parce que d'abord, vous voyez, une constitution, ce n'est pas pour un homme ou pour un régime. Une constitution, c'est pour des générations. Une constitution, c'est pour des visions politiques, économiques, culturelles, sociétales. Regardez aujourd'hui, sans même qu'on aille au référendum, les difficultés techniques ont été tellement subtilement expliquées par Sango, qui, un technicien vient de dire que pratiquement c'est quasi nul pour réussir une bonne opération de ces élections-là. Deuxièmement, le facteur insécurité n'a même pas été évoqué. Au-delà de ça, est-ce que ceux qui ont dit qu'ils ne sont pas dans l'accord, qu'ils ne sont pas dans cette condition, c'est-à-dire que les accords d'Alger sont quand même des parties composantes du peuple malien. Et même, ils ont dit qu'ils ne se reconnaissent pas dans cette constitution. Il y a une partie des religieux qui ne se reconnaissent pas. Il y a l'appel du 20 février qui ne se reconnaissent pas. Et tout ça, si vous passez en force, ça va résister pour combien de temps? Alors qu'une constitution, même si ça ne fait pas l'unanimité, doit respecter des principes fondamentaux. La légalité dans la procédure et l'adhésion de la majorité du peuple pour sa promulgation d'un tempo démocratique.
D'accord. Docteur Adama Traoré, est-ce que ce projet de nouvelle constitution est-il un projet mort-né, comme l'a indiqué Issa Odim?
Bon, vous savez, chacun exprime sa pensée, son désir, son vouloir. Avec les réalités, c'est autre chose. Et je constate, puisqu'il a fait un petit peu allusion à mon intervention par rapport à la Constitution 92. Je répète, nous n'avons pas consulté le peuple malien quand le CSP, avec Amadou Toumtouré en tête, on a adopté cette Constitution 92. Je répète, ça a été consulté, accepté dans une salle auprès de la culture. Alors, qu'on vient me dire ici que ceux qui sont là, ils violent parce que ils sont en porte-à-faux avec la loi fondamentale. Mais c'est une transition qui a conçu la loi fondamentale 92. C'était conçu avec le CSP et Amadou Toumtouré. Je vous répète, je suis à la base. Nous avons fait une constitution d'intellectuels de grâce. Dès l'instant qu'on dit, on consulte un peuple pour un oui, pour un non, vraiment, il n'y a rien de plus illégal. Il n'y a rien de plus illégal. Si tu es sûr de toi-même, ne passe pas le temps à critiquer, il est bon, il n'est pas bon, il veut ceci, là, ça, c'est zéro pour moi. À moins que tu aies une dent particulière contre Jean ou Paul, il y a eu des assises nationales, ce qui a regroupé quand même des alliances ici au Mali, y compris, tout le monde était là aux assises. Les assises ont recommandé qu'il y ait une relative de la loi fondamentale. Vous êtes présents à cette époque-là. Vous êtes allé maintenant au CSP, membre là-bas. Non, mon problème se résume en quelque chose de bien précis. C'est pourquoi j'ai dit que je suis dans ce débat-là, parce que moi j'ai commencé le débat depuis fort longtemps. Ce document, le voilà. Je l'ai écrit à Amadou Toumtouré pour qu'il fasse immédiatement la relative de la loi fondamentale. Il l'a fait avec Alpha. Il était président. Il était Amadou Toumtouré, président. Je sais que moi, je sais que j'ai comme problème. Alors, je vais dire simplement, dès l'instant qu'ils veulent consulter le peuple, vraiment, de grâce, qu'on soit suffisamment honnête, intelligent pour dire que c'est le peuple qui est consulté, c'est le peuple qui doit se prononcer pour dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Il est inutile en ce moment-là de mettre en exergue une position déjà où Paul veut se présenter, il ne va pas se présenter. C'est pas mon problème à moi. Notre constitution dit, quand tu es militaire, tu restes citoyen, tu restes malien, dans toute sa plénitude. D'accord. En ce moment-là, tu enlèves tes galons, tu te présentes. Mon problème n'est pas à ce niveau-là.
Vous avez dit et vous avez répété que en 92, vous n'avez pas consulté le peuple malien. Alors, comment s'organise un scrutin référendaire?
Alors, maintenant, c'est par voie constituée du peuple. Il faut constituer le peuple. Le référendum, la constitution, mais c'est la vie d'une nation. C'est le tout d'une nation. Ses réflexes, ses répondants, ses désirs, le tout, c'est constitué dans une constitution. Alors, aujourd'hui, ils en ont fait une nouvelle, même si les bases, n'est-ce pas, de l'ancienne constitution, il y a beaucoup d'éléments. Je suis à l'aise parce que Wafi, qui a été le secrétaire au niveau de la constitution 92, Wafi, c'est le même qui est encore là. C'est pour ça que moi, je n'ai rien dit. Wafi, c'est la base, c'est lui qu'on a réalisé ensemble, c'est lui qui a conçu, c'est lui qui a mis en état pour qu'on ait la conférence nationale. Et il est maintenant membre. Donc, il connaît parfaitement cette constitution-là. Laissez le peuple se prononcer. Si on veut être légaliste, on veut être correct, on veut être honnête, en ce moment-là, dès l'instant qu'on dit constitution un peuple-là, laissez qu'on consulte. Maintenant,
d'accord.
La question qui a été posée, que mon collègue a répondu par rapport à la faisabilité.
Oui, j'y arrive. Il disait tout à l'heure qu'il n'y a pas un fichier électoral disponible ni pour les militaires ni pour les citoyens lambda. Alors, dans ce cas de figure, comment peut-on aller dans un référendum s'il n'y a pas de fichier, encore moins les cartes biométriques qui ne sont pas disponibles?
On est là, on est tous maliens, on vit ensemble, on verra dans la pratique si ils sont prêts ou si ils ne sont pas prêts. De toute façon, en termes... un proverbe Bamara dit, Bamanangana, il y a des femmes là.
C'est-à-dire,
quand tu remplis ta bouche, n'est-ce pas, de farine là, c'est que tu sais qu'il y a de quoi mouiller cette farine là. En ce moment-là, ne faisons pas une guerre d'opinion, une guerre d'attitude, une guerre de réflexion. Ils ont dit, on peut faire, ok, mais nous constatons qu'il y a ça. Ça qui manque, ça, c'est la réflexion normale. Sans rester dans des critiques inutiles. On sait maintenant, vous avez dit que vous avez fait, mais donc, il a parlé des fichiers. Il y a des priorités à remplir. Alors, ils ont donné une date. C'est à nous de les voir à l'œuvre. S'ils vont pouvoir effectivement répondre à tout ce qu'il y a comme manquement pour pouvoir réaliser leur rêve, leur objectif. Si c'est fait, moi, je suis d'accord à ce qu'on réalise. C'est ça mon problème. Mais maintenant, l'organisation, c'est autre chose.
Mais comment voyez-vous une élection référendaire sans un fichier électoral?
Mais je vous dis, ils l'ont dit, et il a donné à bonne escience, c'est des trucs, c'est exact. Je ne suis pas en train de poser des problèmes de fichier électoral. J'ai dit simplement, s'il dit qu'ils sont prêts, il faut que cet ensemble d'éléments soit pris en compte. Si cela n'est pas, c'est qu'il y a une faute. Je suis d'accord sur ça. Je ne suis pas en train de voir comment on... Je dis simplement, le principe, je suis d'accord. Maintenant, la faisabilité, c'est quoi?
Donc,
c'est
vous êtes pessimiste?
Tous les éléments
donc, vous êtes pessimiste quant à la tenue de ce référendum?
Bon, pessimiste, c'est une façon de parler. On m'a annoncé qu'on peut le faire. Moi, j'ai pour habitude, je respecte tout homme qui me dit, je peux faire ça. Si tu peux le faire, je te laisse faire jusqu'à ce que tu sois incapable de réaliser ce que tu as dit. En soi, je te prends en défaut. Voilà ce que tu as dit, tu ne vas plus le faire. Je ne suis plus d'accord avec toi.
D'accord.
OK, mais pas avant.
Docteur Sango, vous avez dit qu'il n'y a pas de fichier électoral. Les cartes biométriques sécurisées qui ne sont pas encore disponibles pour tous les Maliens. Et à ce stade, qu'est-ce qui est fait réellement pour aller à cette élection référendaire?
Bon, je voudrais préciser, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de carte de fichier électoral. Hein. J'ai dit qu'il n'y a pas de fichier électoral distinct pour les militaires et de fichier électoral distinct pour les civils. Il y a un fichier électoral qui englobe et les militaires et les civils. Donc, il y a bien un fichier électoral pour voter. Maintenant, c'est ça. C'est-à-dire que lors d'aujourd'hui, le ministère de l'Administration territoriale et l'EJ doivent édifier les Maliens.
Exact.
Ils ont donné une date. Et tout comme en 92, où il y a eu le référendum en janvier et puis la promulgation de la Constitution en février, Et cette année, on a prévu que le référendum va se tenir en juin. Si le référendum doit se tenir en juin, il y a une période pour la campagne électorale. C'est-à-dire que ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec le nouveau projet de constitution, ils ont entre le 2 juin et le 16 juin pour battre campagne, pour dire à tous les Maliens ne votez pas. Ça, c'est les dispositions légales. Et ceux qui veulent que le projet de constitution passe, ils ont entre le 2 juin et le 16 juin pour dire aux Maliens votez. Mais dans l'immédiat, ce dont on a besoin, pour moi, c'est la vulgarisation du projet de constitution. Et dans toutes les langues nationales. Parce que quand on voit le Mali, c'est 17% de francophones. Les 83%, c'est les langues nationales. Donc, et les Maliens évoluent dans les langues nationales. Que ce soit le Bambara, le Soninké, le Dogon, etc. Donc, c'est les langues nationales. Et ce projet de constitution doit être traduit dans les langues nationales pour que les populations puissent le savoir. Ça, c'est un aspect très important en termes de vulgarisation du projet de constitution. La deuxième chose, c'est par rapport à l'accessibilité aux données biométriques. Vous savez, aujourd'hui, quand le gouvernement parle, il dit « allez-y sur Internet, tapez le 36-223 pour savoir là où est votre carte biométrique, etc. » Mais ça, c'est pour ceux qui sont instruits, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Mais et les cultivateurs, les pêcheurs, les agriculteurs, comment ils vont faire pour vérifier leurs données biométriques et puis pour pouvoir les valider pour qu'on ait les cartes nationales d'identité biométrique. Donc pour nous, ça a été une erreur de dire que la carte nationale d'identité biométrique sera utilisée pour les élections et celle uniquement et ne sera pas disponible dans les bureaux de vote. Parce qu'à un mois, comment produire 8 millions de cartes d'identité biométrique pour les Maliens, comment les distribuer pour que chacun vienne le jour du vote avec sa carte devant le bureau de vote. C'est un très grand problème. Et si les autorités ne redoublent pas d'efforts, on n'a pas dit le 18 juin, ce n'est pas possible, mais il faut qu'ils redoublent d'efforts pour multiplier les points de distribution des cartes nationales d'identité biométrique sécurisées. D'abord, informer les Maliens combien de cartes ont été produites à ce jour, combien de cartes restent à être produites. Donc ce travail d'information n'est pas là. Et s'il n'est pas là, ça pose un problème quant à la réalisation même des élections le 18 juin.
En janvier 2023, vous avez dit sur ce même plateau que la date du 19 mars précédemment annoncée est irréaliste. Est-ce que vous êtes en train de dire également que cette date du 18 juin aussi est réaliste?
En janvier, sur ce même plateau, j'avais dit le 19 mars, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'EJ, dans la loi, l'EJ devrait avoir 6 mois pour être installé. Les coordinations dans les régions, les cercles. Et c'est en janvier 2023 que l'EJ au niveau national a été installé. Donc nous avons dit en ce moment, le plus tôt pour le référendum, c'est le 18 juin. Par hasard, la date du gouvernement a coïncidé avec cette date du 18 juin. Mais aujourd'hui, nous pensons que c'est possible. C'est possible pourquoi? Parce que l'EJ a été installé depuis le janvier au niveau national. Les démembrements, on a relu la loi pour dire qu'au lieu de 6 mois, c'est 3 mois. Pour les installer. Et aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les démembrements sont connus. Les membres ont été désignés, mais n'ont pas été installés par l'EJ. Et dans l'intervalle des mois, nous pensons que l'EJ peut multiplier les missions pour installer ces démembrements. Ça, c'est possible. Pour la production des cartes nationales d'identité biométrique, on dit que c'est avec une industrie, un opérateur économique malien. C'est possible de voir, est-ce que les 8 millions au moins qui vont voter, comment ils vont avoir leur carte nationale d'identité biométrique. Donc ça, c'est une grande sensibilisation qu'il faut faire, une grande mobilisation et des efforts du ministère de la Sécurité et du ministère de l'Administration territoriale pour qu'on puisse avoir les 8 millions d'électeurs pour que les gens puissent voter. D'accord. À défaut de cela, il faut revenir, donc relire la loi électorale dans l'espace des mois, relire la loi électorale pour dire non, les cartes d'identité biométrique seront disponibles dans les bureaux de vote. Parce qu'en 2013, les cartes NINA étaient disponibles dans les bureaux de vote et ça a facilité le vote. Maintenant, en 2023, on peut dire les cartes nationales d'identité biométrique seront disponibles dans les bureaux de vote pour les gens qui n'ont pas pu les retirer avant. D'accord. Tout ça, c'est des mesures que le gouvernement peut prendre.
D'accord. Issaka Odim, comment faire pour concilier votre position avec celle des autorités de la transition pour aller à ce référendum constitutionnel?
Vous savez, c'est une question de principe. Nous ne sommes pas là à un marchandage. Et je pense que c'est ce que nous avons eu à dire. Tout le monde est d'accord que nos institutions n'arrive pas à résister à des crises, c'est parce qu'on n'a pas la culture, on n'a pas voulu aussi cultiver la culture des institutions. C'est seulement la forme. Dans le fond, c'est toujours la question de personne. C'est-à-dire que celui qui est chef est confondu à l'institution. Et ça a été dit ici par tout le monde, personne n'a remis en cause que ce qui est en train d'être opéré, c'est en violation de la Constitution. Donc si c'est en violation de la Constitution, on ne va pas, nous aussi on est d'accord, ça veut dire que nous on n'a pas de raison d'être en tant qu'appel du 20 février, ça veut dire que nous-mêmes on est en porte-à-faux. Pour nous c'est un projet mort-né, ça s'impose par la force. Et ça va résister combien de temps? Parce que nous avons vu, Mourvo Traoré est tombé avec sa constitution. Moussa Traoré est tombé avec sa constitution. Ibeka vient de tomber avec la constitution de 92. Et aussi la durée, c'est-à-dire que la durée de vie de cette constitution, c'est combien de temps? Ce n'est pas une question de personne. Il est temps que, pour une fois, nous les Maliens, que nous définissons ce que nous voulons. Sans qu'on rentre dans des questions de personnes, d'ego, de ressentis, ou alors je l'ai dit et c'est moi qui l'ai dit, il faut qu'on le fasse.
Donc il n'y a pas de moyen pour concilier votre position à celle des autorités.
Il est très simple, c'est de renoncer à cette affaire-là. C'est parce que vous savez, il y a une citation.
Mais vous venez d'entendre Adama Traoré qui disait tout à l'heure que ce projet de constitution, la constitution actuelle avait des problèmes depuis lors de sa conception où il avait demandé au président de transition, le président de la République à l'époque, Alpha Oumar Konaré, de réviser le texte.
Oui, mais ce qu'il n'a pas dit, je ne vais pas polémiquer avec lui, il était aussi avec Sanogo. Qu'est-ce qu'il a dit à Sanogo? C'est-à-dire que la question n'est pas là. La question aujourd'hui. Nous, les Maliens, on est dans la culture, tout simplement, du coup d'État. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mourvo a fait un coup d'État, lui, on lui a fait un coup d'État. Moussa Traoré a fait un coup d'État, lui, on lui a fait un coup d'État. Tété a fait un coup d'État, on lui a fait un coup d'État. Sanogo a fait un coup d'État, on lui a forcé à donner le pouvoir. Et donc, aujourd'hui aussi, le CNSP a fait un coup d'État. Est-ce qu'on va continuer perpétuellement dans les coups d'État?
Mais vous avez soutenu ce coup
d'État.
Non.
Nous avons créé, parce que, vous savez, si on revient dans ça,
oui,
on sort
du sujet.
Vous
avez même défendu, la candidature du président.
J'ai eu à dire ici. J'ai eu à dire ici. Non, je ne me réunis pas. Je veux pas.
Mais ça pourquoi aujourd'hui, demande au peuple d'aller en référendum et vous dites que c'est un projet mort-né?
Vous pouvez me laisser parler.
Allez-y.
Parce que là, vous sortez du débat.
Non, je ne sors pas du débat
parce que vous dites que je l'ai soutenu, parce que je suis obligé de répondre. Si je réponds, je sors du débat, mais je vais répondre, juste une parenthèse. J'étais membre du M5, pas n'importe quel membre fondateur. C'est moi qui m'appelais le numéro 10. Et quand il y a eu, les militaires sont venus, ce qu'ils ont dit, j'ai cru, de bonne foi. Et je les ai soutenus, je ne regrette rien. Parce que c'est eux qui pouvaient mettre tout le monde d'accord. Non seulement l'armée était un corps neutre, c'est le corps le plus organisé, et la crise est réelle, est politique, est sécuritaire, et même sociale. Donc c'était mettre tout le monde d'accord pour nous sortir de la crise, et j'ai cru que le CNSP pouvait le faire.
D'accord.
Maintenant, vous ne pouvez pas me dire, de dire quelque chose, et puis dire d'accord, je vais répondre à cette question. Donc je l'ai fait. Et ensuite, moi-même, quand j'ai vu que la tournure a pris des choses, je me suis opposé, on m'a destitué, on m'a mis en prison. Et depuis lors, je suis sorti, j'ai demandé pardon au peuple malien et de revenir à la démocratie et à la loi. Parce que j'ai vu que ce qui nous protège, c'est les grandes institutions et non les hommes forts. Donc ça, c'est une parenthèse. Maintenant, pour répondre à votre question, vous avez posé la question de savoir, ils ont dit le peuple. Parce que vous, là, on dirait qu'on vous a dit de dire au peuple. Est-ce que vous êtes un journaliste ou vous êtes un affidé du pouvoir?
Allez-y, c'est
Mais comment ils peuvent être du pouvoir? Ces 5 militaires appelés CNSP qui font un coup d'État sur la lutte du M5 que nous étions, et que quel peuple? Qui les a élus? Non. Ils ont le pouvoir des armes. Parce qu'ils ont les armes, ils mettent tout le monde d'accord. Écoutez-moi.
Deux minutes.
Voilà, donc pour répondre, pour nous, l'appel du 20 février, c'est une chose. Ce projet est un projet mort-né. Ça va s'imposer peut-être par la force, mais sa durée de vie, c'est combien d'années? Dieu le sait. Donc pour finir, nous, l'appel du 20 février, nous restons sereins, nous restons légalistes, mais nous pensons que accepter d'aller à ce référendum, c'est faire un coup d'État à la démocratie.
D'accord. Faire un coup d'État à la démocratie. Y a-t-il une chance que ce référendum réussisse?
Ça, c'est la volonté d'un peuple. Dire autre chose, tu es dans le décor. On va consulter un peu sur son avis, oui ou non.
D'accord.
Mon problème s'arrête au niveau d'un peuple.
D'accord.
Maintenant, vraiment, il faut qu'on soit nous-mêmes. Alors, il y a des positions caractérisées, personnelles. Ça ne reflète pas forcément l'avis de tout un peuple. Hein.
D'accord.
Parce que, écoutez-moi bien, les associations, on sait les dimensions.
D'accord.
Bamako ne s'arrête pas seulement à. Le Mali ne s'arrête pas à Bamako. Hein.
D'accord. En 30 secondes, dites-nous, est-ce qu'il y a une chance que ce référendum réussisse?
Bon, je pense que ce référendum réussit. Si le gouvernement s'y met, si l'aide s'y met, on peut dire que le référendum va réussir. Parce que ça dépend de la vulgarisation du texte. Parce que si le peuple comprend le texte, il va aller en faveur du texte. Mais si le peuple ne comprend pas, il ne va pas aller en faveur du texte. Il y a des défis techniques à relever. Il y a aussi la vulgarisation qu'il faut faire dans toutes les langues
d'accord,
nationales.
Il y a des défis à relever et des vulgarisations à faire. Merci. C'est sur ce mot de Dr Ibrahim Asango que se referme ce grand dialogue qui réfléchissait comment réussir un référendum apaisé. Nous étions avec Dr Ibrahim Asango de l'Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance, Issa Kaodjim, porte-parole de l'appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali, et Dr Adama Traoré, président de la coordination des associations et regroupements de la société civile à Karsok. À la présentation, je suis Imran Akilo Maïga. Ce débat a été coordonné par Sekou Gadjigo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.